Le mot théologie désigne dans la langue courante l'ensemble de la spéculation sur le donné révélé, qu'il s'agisse de Dieu ou de la grâce ou de l'Église ou des sacrements. Les pères, plus rigoureusement, distinguaient la théologie proprement dite, qui porte sur les personnes divines, et l'économie qui s'attache à l'œuvre de Dieu dans la création et la rédemption. C'est en ce sens que nous emploierons ici le mot, puisqu'aussi bien il s'agit seulement de Dieu dans ce livre. La théologie porte à la fois sur Dieu dans son essence et dans ses personnes. Nous laisserons de côté le premier aspect parce que nous avons à plusieurs reprises eu l'occasion de l'aborder, en particulier à propos de la révélation de Dieu dans l'Alliance. Nous constaterons seulement qu'il faut le distinguer de la théodicée, ou connaissance philosophique de Dieu. Il s'agit proprement ici de la nature divine telle que la révélation nous l'a fait connaître. Mais notre objet sera seulement la théologie trinitaire. Il est clair que nous ne pouvons en quelques pages exposer ce qui constitue le cœur même de la théologie. Nous voudrions simplement montrer, comme c'est notre objet ici, en quoi consiste la connaissance théologique et les problèmes qu'elle rencontre. Nous ne faisons ainsi que continuer ce que nous avions commencé au chapitre précédent. Nous avions montré que la révélation nous montre les trois personnes se révélant comme divines et comme personnelles à travers les missions. Le Père envoyant le Fils et l'Esprit, le Fils et l'Esprit se manifestant dans les œuvres qu'ils accomplissent. La théologie prolonge la révélation en dégageant de cette manifestation essentielle ce que sont dans leurs relations éternelles les trois personnes. Il faut réaliser le caractère vertigineux de cette entreprise pour comprendre combien elle a été difficile. L'esprit humain se trouve en effet confronté ici à une réalité totalement étrangère, pour laquelle il n'a aucune référence dans son expérience, ou même qui paraît un défi à tous les principes qui lui servent dans l'ordre de cette expérience. L'éclat de la Trinité est si éblouissant que le regard de l'homme ne peut le fixer. Il n'a à sa disposition que les données de l'Écriture qu'il lui faut interpréter par les données de l'Écriture. Aussi, à tâtons, en rapprochant texte de texte, s'avance-t-il dans ce monde inconnu et inconnaissable sur lequel il n'a d'autre prise que ce que la Trinité elle-même lui a laissé entrevoir par son action dans le monde. Et pourtant, il doit dire quelque chose. Et c'est à travers des balbutiements dont il perçoit lui-même l'imperfection qu'il peut arriver à des formules justes. Car il faut bien partir du fait que la base même de la foi chrétienne est qu'il n'y a qu'un Dieu. Ceci remplit l'Ancien Testament et constitue la base inébranlable de la foi biblique. En présence du Dieu unique, le Nouveau Testament manifeste l'existence du Fils qui est Dieu et de l'Esprit qui est Dieu. La première démarche de la théologie, cherchant à unir ces deux affirmations, sera d'affirmer qu'il est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu, dans la mesure où il y a un sens où le Dieu unique possède seul la divinité du sens originel et primordial. Et c'est ce Dieu qui est le Père. Mais le Fils et l'Esprit sont réellement Dieu, dans la mesure où ils possèdent réellement la divinité, mais d'une manière dérivée et seconde. On ne voit pas bien comment on aurait pu d'abord formuler autrement les choses. Et c'est bien ce qu'ont fait les premiers théologiens qui ont osé regarder le problème en face. Ainsi, les théologiens judéo-chrétiens, utilisant les catégories familières au judaïsme de l'époque, désignèrent le Fils et l'Esprit comme des anges, voulant signifier par là des personnes spirituelles, d'une nature éminente, distincte du Père, mais inférieure à lui. Les premiers théologiens grecs s'exprimèrent de façon plus spéculative. Justin voit, dans le Père, le Dieu caché et inaccessible, dans le Verbe, la manifestation de Dieu à l'humanité. Ainsi apparaît un trait qui restera longtemps caractéristique de la théologie du Verbe, son lien avec la création. Pour Origène, bien qu'il ait le premier essayé d'exprimer le mode de la génération du Verbe avec plus de rigueur, celui-ci reste séparé du Père par un abîme comparable à celui qui le sépare lui-même de la création. Par ailleurs, le Père est pure unité. Le Verbe est à la fois un et multiple, intermédiaire ainsi entre le Père, qui seul est ôtéos, et la création, dont il est l'archétype. La théologie latine présente une formulation analogue. Pour Tertullien, le Verbe a existé éternellement, comme pensée immanente et impersonnelle de Dieu, en tant que celui-ci est esprit et donc pensée. Mais il n'a pris une subsistance personnelle que lorsqu'il a été proféré pour être l'instrument de la création. Ainsi, il est éternel comme pensée, mais non comme personne. Origène, inversement, qui admettait l'éternité du Verbe comme personne, mais pour qui sa relation au monde était essentielle, en était amené à conclure que le monde était éternel. On entrevoit bien la raison de cet tâtonnement. L'existence du Verbe, nous l'avons dit, apparaît dans la révélation à l'occasion de ses missions dans la création et dans l'incarnation. D'où la tendance à lier ses missions à sa personne, à ne pas le considérer en dehors d'elle dans sa relation éternelle avec le Père. Tertullien, par ailleurs, emprisonné dans les représentations encore matérielles, voyait dans le Fils une portion de la substance du Père. Ces difficultés, qui avaient leur principe même dans l'Écriture, étaient encore augmentées par l'interférence des systèmes philosophiques du temps qui attiraient la théologie trinitaire dans leur orbite. Les philosophes du moyen platonisme, Numénius et Albinus, concevaient la divinité comme une hiérarchie d'hypostases. Plotin donna à cette vision sa forme la plus rigoureuse en voyant l'intelligence comme une émanation de l'un primordial et l'âme, à son tour, comme une émanation de l'intelligence. À ce moment d'expansion correspondait un moment de conversion où tout se recueillait dans l'un primitif. Le plus grand des théologiens ariens, Œnome, applique un schéma analogue à la Trinité. Identifiant l'acéité de la nature divine et le fait que le propre du Père est d'être inengendré, il réservait au Père seul l'acéité. Mais déjà, dans la forme que lui avait donnée Arius, cette représentation des choses avait été sentie comme infidèle aux données bibliques et comme incompatible avec la divinité du Verbe. Celui-ci ne possédait pas simplement une nature divine, seconde et participée. Il ne l'avait pas reçue d'une libre décision du Père. Mais il possédait la même nature divine que le Père dans la même éternité. C'est le Concile de Nicée qui sanctionna cette affirmation en définissant la consubstantialité, homo ousios, du Père et du Fils, en même temps que leur égale dignité et leur égale éternité. Mais l'expression à son tour eut du mal à être acceptée. Dire que le Fils avait la même ousia que le Père, n'était-ce pas le confondre avec lui? La question théologique se compliquait de questions de vocabulaire. Le mot ousia pouvait désigner aussi bien la nature que la personne. Il fallut le spécialiser dans le sens de nature et lui opposer un autre mot, celui d'hypostasis, pour désigner la personne. Des esprits superficiels pourraient voir là des querelles de mots, mais les pères de l'Église ne s'y trompaient pas. Ils sentaient combien était grave l'enjeu de ces discussions et les conséquences fatales qu'avait une erreur. Si le Fils, en effet, n'est pas vraiment Dieu, disait saint Basile, la nature humaine n'est pas divinisée par son incarnation, la vie divine n'est pas communiquée au baptême. Et ainsi c'est toute l'existence chrétienne qui est mise en question, car le dogme trinitaire n'est pas une doctrine absconse, la vie chrétienne tout entière lui est suspendue. Le plus mystérieux, il est aussi le plus élémentaire. C'est au nom des trois personnes que le petit enfant est baptisé. Il est plongé, petit être de chair et de sang, en pleine vie trinitaire, et toute son éternité ne sera que l'épanouissement de cette grâce première. La divinité du Verbe est donc la pierre angulaire sur laquelle tout repose, en dehors de laquelle tout s'effondre. C'est pourquoi il fallait à tout prix parvenir à l'exprimer correctement. Ainsi était posée à Nicée l'affirmation fondamentale de la totale unité de nature du Père et du Fils et de leur distinction personnelle. Le Concile de Constantinople en 381 étendit cette affirmation à l'Esprit Saint, mais cette affirmation laissait ouverte la difficulté opposée au consubstantiel. Si, absolument, tout est commun entre le Père, le Fils et l'Esprit, qu'est-ce qui constitue leurs différences formelles et les spécifie comme personnes? Car ils ne sont pas trois personnes identiques s'ils ont une nature unique. Telle est l'arête étroite où le regard du théologien devait se poser. Or, en s'y posant, il apparaissait que, par un étonnant paradoxe, la seule chose qui fût propre à chaque personne était sa relation avec les autres. Le Père n'existe que dans sa relation au Fils et l'Esprit dans sa relation au Père et au Fils. Et du même coup apparaissait en pleine lumière la raison de leur coexistence éternelle. Si le Père n'existe que dans sa relation au Fils, il coexiste nécessairement, éternellement, avec le Fils. Il y a entre les trois personnes une totale interdépendance et une parfaite réciprocité. Et ceci est le dernier mot de ce qui peut être dit sur ce qui reste ineffable. Car après avoir dit que Dieu est ainsi un et trois, il faut répéter avec le pseudo Denis « Ainsi la déité transcendante se célèbre tout ensemble et comme unité et comme trinité. En fait, elle n'est connaissable de nous ni d'aucun être, ni comme unité, ni comme trinité. Pour célébrer en toute vérité ce qui en elle est plus un que l'un lui-même, c'est-à-dire ce principe qui engendre en elle les réalités divines, nous attribuons à la fois le nom d'unité et celui de trinité, à celui qui est au-dessus de tout nom et qui transcende suressentiellement tout ce qui existe. En vérité, ni un, ni trois, ni aucun nombre ne saurait révéler, car il dépasse toute raison et toute intelligence, le mystère de la déité suressentielle. » Fin de citation. Ce mystère, toutefois, les théologiens essaieront de l'exprimer par des analogies toujours déficientes et non cependant sans signification. Ces analogies peuvent être diverses, car si le dogme est nécessairement un, les théologies peuvent différer par les diversités des instruments conceptuels qu'elles utilisent. L'Église elle-même l'a toujours reconnu. Si elle a donné sa préférence à la synthèse de saint Thomas, elle n'a jamais rejeté des systèmes comme celui de saint Bonaventure. La perspective dans laquelle les pères grecs considèrent la Trinité est différente de celle de saint Augustin, dont héritera la théologie occidentale. Le progrès même de la théologie exige en ce domaine une liberté de discussion dans les questions disputées, qui suppose une diversité. Il n'est même aucunement exclu qu'à l'intérieur de la tradition de la théologie perennis, des synthèses nouvelles puissent se constituer, qui mettent davantage l'accent, par exemple, sur la perspective de l'histoire du salut, en utilisant certaines catégories des philosophies modernes de l'histoire, ou qui profitent des acquisitions de la philosophie de la personne et de la communauté pour approfondir une théologie du corps mystique du Christ. De cette diversité des systématisations, la théologie trinitaire nous donne un exemple. Saint Augustin part du fait que Dieu est esprit. Or, tout esprit est un principe d'opérations immanentes. Il s'exprime dans une parole intérieure, dans laquelle il se complaît comme dans la parfaite image de sa pensée. Il y a donc ainsi mémoire, verbe et amour. Ainsi, pour Augustin, l'unique nature divine, dans la mesure où elle est nature d'un esprit et principe d'opération, possède aussi mémoire, verbe et amour. Et il rattache chacune de ces opérations à l'une des personnes. Ceci marque bien le caractère spirituel des générations et processions divines, ainsi que l'unité de la divinité. Mais le fait qu'en Dieu les opérations soient des personnes n'apparaît pas. Une autre difficulté est le fait que la pensée et l'amour, appartenant à la nature comme telle, sont communs aux trois personnes. C'est pourquoi la théologie orientale a toujours été hostile à cette analogie. Richard de Saint-Victor part, lui, de l'existence en Dieu et de l'amour. Dieu est la plénitude de tout bien. Or, l'amour est un bien, et donc l'amour existe en Dieu. Ceci est si certain que les philosophes en ont parfois conclu à la nécessité de la création pour que Dieu puisse aimer un autre que lui-même. La Trinité nous permet de comprendre comment l'amour peut exister en Dieu sans que la création soit nécessaire. Dieu est donc amour, mais l'amour suppose dualité de personne, car il est complaisance dans un autre. C'est là, en effet, nous l'avons vu, l'essence de la conception biblique de l'amour, qui est la conception extatique et s'oppose à la conception physique qui est relation à l'être et non à la personne. Mais par ailleurs, l'amour tente à se communiquer et trouve sa plénitude dans cette communication. L'esprit, La troisième personne exprime ainsi qu'en Dieu, il n'y a pas seulement amour, mais plénitude de l'amour. La théorie victorienne a l'avantage de mettre l'accent sur le lien de la Trinité et des personnes. Elle est plus proche de la tradition orientale que celle d'Augustin. Saint Thomas unira les deux en montrant leur complémentarité. Et il est sûr que tout mystère se trouvant irréductible à toute analogie ne peut être atteint que par des visées multiples, dont chacune dégage un aspect et qu'il est impossible de réduire à l'unité. C'est pourquoi la réalité du mystère fait éclater nécessairement tout système où on voudrait l'enfermer. Il reste en effet que la théorie victorienne est déficiente elle aussi, dans la mesure d'une part où l'unité de la nature, à l'inverse de ce qui a lieu chez Augustin, n'apparaît pas dans sa nécessité. Elle évoque les représentations trinitaires, chères aux derniers siècles médiévaux, où les trois personnes sont symbolisées par trois hommes absolument semblables, mais faisant chacun un geste différent. Une dernière analogie est celle que nous propose le grand mystique Ruysbroeck. Il part de la notion de vie. Celle-ci s'exprime par un mouvement alternant de repos, d'expansion et de reflux, qui en est comme la pulsation. Or, ceci présente une analogie avec les trois personnes. Je cite « Cette vie demeure toujours dans le Père, elle s'écoule avec le Fils et elle reflue avec le Saint-Esprit. » Fin de citation. Ceci a l'avantage de montrer comment la Trinité est l'expression de la vie intime de Dieu et aussi de retenir le meilleur de la doctrine plotinienne de l'émanation et de la conversion en la purifiant de ses attaches cosmologiques. Ruysbroeck retient par ailleurs l'analogie augustinienne des trois puissances, mais en même temps, une touche nouvelle est apportée. Et ceci donne à sa théologie trinitaire, comme l'a montré le père Henri, une remarquable plénitude. Aussi le Dieu vivant, dans sa réalité une et trine, reste-t-il enveloppé de la ténèbre comme d'un manteau, alors même qu'il se manifeste, et enveloppé du nuage de l'inconnaissance. Et pourtant, en même temps, ce Dieu un et trine est infiniment proche de l'âme, plus proche à elle qu'elle-même. Il demeure par la grâce dans la substance même de l'âme en tant qu'il opère sa divinisation. Par la foi pure, au-delà de tous les concepts, l'âme le saisit dans sa réalité mystérieuse. Cette saisie du Dieu inconnaissable dans sa réalité cachée, par la communication qu'il fait de lui-même, est le domaine de la théologie mystique, qui est l'ébauche de la vision béatifique. C'est ce dernier aspect où l'essence de Dieu en ce qu'elle a d'incommunicable, sa sainteté, se révèle à l'âme dans une relation existentielle qu'il nous reste enfin à évoquer.